ouvert la nuit.
Jusqu'à 23h,
la nuit s'ouvre sur France Inter.
Alors Alexandre, le pays où vous nous entraînez ce soir est un homme ?
Ah, c'est bien dit ça, parce que effectivement, Tania, on va non pas vers un pays précisément, on va essayer de se faire dessiner un portrait intime de ce grand photoreporteur quasi iconique que fut Gilles Caron. Et ça, on va le faire, je vous propose de le faire en compagnie de celle qu'il a le mieux connue, son épouse Marianne.
Je crois qu'on va aussi parler d'Algérie.
Ça, évidemment, parce que en ce moment, je crois qu'il y a 50 ans, l'Algérie était indépendante, mais évidemment, après cette guerre qui disait pas son nom et qu'a fait sous les drapeaux Gilles Caron, aujourd'hui est publié par l'entremise de Marianne Caron, j'ai voulu voir, c'est chez Calman Levy, donc on n'oubliera pas de parler de ce livre et donc aussi d'évoquer ce conflit par les yeux extraordinaires de Gilles Caron.
Alors, je vous laisse ouvrir toutes ces enveloppes et découvrir toutes ces lettres avec votre invité.
Avec Marianne Caron. Et bonsoir tout d'abord, Marianne.
Bonsoir.
Je ne sais pas si c'est forcément, merci d'être là, un exercice que vous avez envie de faire aussi facilement que ça, d'évoquer comme ça celui qui vous est le plus proche sur ce terrain-là, qui est un peu aussi celui de l'intimité.
Non, mais c'est très difficile de parler pour quelqu'un. Je peux parler pour moi, mais j'ai pas vécu la vie de Gilles. Je peux parler de ce que j'ai croisé, mais j'ai jamais suivi un reportage, donc c'est un peu dur. Et je parle en son nom, c'est ça. C'est une grande difficulté.
Et il y a des absents qui sont toujours présents et qui sont lumineux.
Et oui.
Alors, il y a trois choses aussi qui vous fait venir à nos côtés, Marianne Caron, à la fois ce livre que j'ai évoqué tout à l'heure, Les Lettres d'Algérie, un boulot assez colossal que vous avez fait parce qu'il a fallu les reconstituer, toutes ces lettres qu'il adressait à sa mère, qu'il appelait comment déjà ?
Mam.
Et qui étaient si nombreuses et qui nous permettent pendant 2 ans de suivre le conflit à travers finalement le regard d'un appelé. Et c'est ça aussi qui est intéressant au moment, en fait, le 50e anniversaire de ce pays. Et puis il y a ce qu'on appelle un scrapbook.
Scrapbook.
Voilà, j'y arrive tellement pas que mais merci de m'aider. Ça, c'est un album.
C'est un album, c'est une biographie en images. La vie de Gilles. Enfin, Gilles a vécu. Nous connaissons 30 ans la vie de Gilles. On ne sait pas combien de temps il a vécu, mais on sait que le 5 avril, il est parvenu.
Le 5 avril 1970.
Et donc, il a une vie très linéaire, quelque part. Donc, on a réussi à raconter sa vie par ce qu'il avait gardé, par ce qu'il avait ramené à la maison, par quelques photos de lui et la chronologie de ses reportages. Parce que, comme en fait, il n'a eu que 5 ans de travail photographique,
ouais.
On ne peut pas faire autrement que le raconter de manière chronologique.
Et effectivement, et là on le voit partir sur toutes les lignes de front avec des photos qui sont devenues effectivement très emblématiques de ce que peut être le meilleur du photoreportage. Alors, j'oublie pas aussi de dire, puisque j'ai évoqué 3 événements, c'est qu'il y a aussi une exposition à la Galerie Marlin, c'est dans le 4e arrondissement, et ça se tient jusqu'au 25 février.
Voilà.
Avec des tirages.
Des tirages, des photos qui font partie du scrapbook.
D'accord.
Des photos du livre qui sont tirées en 30-40.
Donc on n'a jamais presque autant parlé, finalement, ces jours-ci, que ces jours-ci de
non,
Gilles Caron.
Non, mais moi, je trouve ça très très bien, et puis, sauf qu'il est temps, parce que ça fait 40 ans qu'il est parti, et il faut qu'il arrive à prendre sa place, et qu'on reconnaisse, parce que la plupart des gens connaissent ses photos, se disent « Ah, celle-là, je la connais », mais ne savent pas que c'est lui qui les a faites.
Ah, oh, c'est celle de Cohn-Bendit, en train de regarder avec son nerf frondeur,
voilà,
les CRS.
Voilà, et puis il y a plein de photos de 68, et puis il y a des photos dans chaque grand événement qu'il a couvert, il y a toujours des photos qui sont ressorties, il y en a quand même un très grand nombre pour le même photographe.
Alors Marianne Caron, on reste ensemble jusqu'à 23h, vous nous avez fait aussi l'honneur de venir accompagner de votre fille aînée, Marjolaine, qui est née en 62, l'année 63, un an après votre mariage, finalement, 62, après son retour d'Algérie à peu près. Enfin, on va faire défiler jusqu'à 23h un peu cette chronologie. On va faire la rencontre de Gilles Caron. On va découvrir un peu sa carrière fulgurante. Et puis, bien sûr, on va évoquer dans la deuxième partie de cette rencontre ces lettres d'Algérie que vous avez pour nous compilées. Je vous propose d'aller jusqu'au studio. Regardez, il a été déserté de toute l'armée pacifique des chroniqueurs d'Ouvrir la nuit. Et là, on y rentre dans ce studio sous la mélodie de Djoura et El Ghazi. Et c'est en compagnie même de Catherine Ringer. Rien que ça. Ça vous va ce petit siège-là ?
C'est parfait, merci.
Et le titre s'appelle Tawes.
Caron est né en 1939 dans un milieu bourgeois de Neuilly. Né d'une mère écossaise et d'un père français, directeur d'une compagnie d'assurance, il aurait dû suivre une carrière tranquille et connaître une vie confortable. Seulement, voilà, ça s'est pas passé comme ça. Gilles a 7 ans quand ses parents divorcent. Il va donc vivre une enfance instable, ballottée, incertaine, qui en aurait des accès plus d'un sûrement. Au contraire, Gilles semble avoir trouvé dans ses épreuves des raisons de se forger un caractère, se cuirasser contre le mauvais sort. C'est là qu'il a puisé la volonté de faire et le culte de l'indépendance qui vont le caractériser.
Marianne Caron, vous avez reconnu qui dressait ce portrait de votre époux, Gilles Caron, au micro de Marie-Hélène Fraissé, c'était en 2009 sur France Culture.
Oui, c'est Hubert Henrotte qui a fondé l'agence Gamma avec Hugues Vassal, Léonard de Rémy et Raymond Depardon. Et Gilles les a rejoints, enfin Gilles était là au tout début de l'agence, mais les a rejoints en tant qu'associé en avril 67.
67.
4 mois après
et puis ensuite, Hubert Henrotte allait fonder Sigma. On parlera de Sigma plus tard, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont arrivées aussi. Comment vous auriez envie, Marianne Caron, de compléter finalement ce portrait-là ? Hubert Henrotte a évoqué effectivement le divorce comme un point de rupture dans la vie de Gilles, mais en disant il a peut-être tiré de cette expérience, de cette fracture, l'équilibre familial rompu, son trait de caractère, sa ténacité.
Oui, mais pas seulement ça. En fait, quand ses parents ont divorcé, il est parti. Il a été envoyé dans un collège, dans un tout petit collège à la montagne, à Argentière. Mmh. Et il s'est retrouvé complètement du jour au lendemain coupé de sa famille. Il adorait ses sœurs, son frère, ses parents, comme tous les petits-enfants, il adorait sa famille, et il s'est retrouvé tout seul. Et donc ça a été très très dur pour lui. Il n'arrête pas d'écrire dans les lettres, justement, dans le début des lettres, « Je veux rentrer, je veux être avec vous, ça fait 3 mois que je suis partie, c'est pas possible. » Enfin, il est très triste. Mais ce qu'il a forgé aussi, c'est ce qu'on sent très bien dans les lettres, c'est son rapport avec sa mère, qui a toujours, Mam, qui lui a toujours parlé comme un égal, comme à quelqu'un de responsable. Donc elle l'a vraiment toujours, elle a toujours considéré comme un adulte. Elle lui a toujours parlé comme quelqu'un qui comprenait tout ce qu'elle disait. Et je pense que ça a aidé Gilles totalement, et que si Gilles est devenu ce qu'il était, c'est beaucoup grâce à Mam.
Fils unique ?
Non, pas. Mam était divorcée avant d'avoir épousé Édouard, son danseur de jeunesse, et le père de Gilles, et elle avait 3 enfants.
D'accord.
Mais c'était une histoire de un peu compliquée, comme tous les divorces. Et après, donc Gilles est allé à la montagne, et ce qu'il a forgé aussi, Gilles, c'était quelqu'un de très très physique. C'est un intellectuel physique. Il a fait du cheval, mais il a fait du cheval totalement.
C'est-à-dire qu'à 14 ans... Peut-être qu'il se réfugie dans cet amour-là, inconsidéré, je ne sais pas, mais pour cet animal aussi
je
sublime...
Je ne sais pas, je sais pas si c'était l'animal tellement qui l'intéressait. C'était le sport, c'était la vitesse, c'était le danger quelque part, parce qu'il m'écrivait, parce qu'on s'est connus très tôt, il m'écrivait à 14 ans qu'il montait en course, le long des virages, il était à 60 km à l'heure, que c'était vraiment incroyable.
Il vous écrit ça alors que vous avez, oui c'est ça, à peine 14 ans,
oui.
Et que vous êtes déjà amoureux, tous deux.
Ah bah oui.
Il vous voit en femme, enfin en épouse.
Oui.
Il vous le dit.
Oui, il me l'écrit qu'on se mariera et qu'on aura des triplettes, et voilà, et qu'une femme doit écrire à son mari, doit répondre à son mari. Mais on ne se connaissait pas à l'époque. On ne s'était jamais vus.
Ah oui.
Non, c'est une histoire, une gentille histoire.
Une très belle histoire.
Et donc, il a fait ça, il a fait du cheval, mais ça veut dire qu'il est monté en course, il est monté pour le PMU, ça veut dire que les gens pariaient sur lui. Il a gagné des courses. Je ne sais pas s'il a fait très longtemps, mais une fois qu'il a eu gagné des courses, ça ne l'intéressait plus. Il est passé à autre chose.
Il est
au fond de ce qu'il veut faire.
Et pourquoi le parachutisme, alors, civil ?
Ben parce que
toujours
c'était...
Pareil.
Voilà, c'était un truc... Moi, je ne sais pas, jamais j'aurais fait une chose pareille. Mais lui, il a fait ça par passion. Il a adoré ça.
On va évoquer tout à l'heure, dans la deuxième partie de cet entretien, Marianne Caron, ses lettres d'Algérie, puisque justement, avoir fait du parachutisme dans le civil le conduit tout naturellement à atterrir dans un régiment de parachutistes là-bas pendant 2 ans en Algérie, pour le service. Mais ensuite, il va y avoir cet amour de la photographie, juste pour qu'on comprenne comment s'installe cette passion.
Mais la photo, c'est très étrange, parce qu'il avait, avant de commencer la photo, en voulant faire de la photo, il n'en avait jamais fait. Il n'a pas fait de photo en Algérie, il n'a pas fait de photo de Marjolaine Petite. La photo, c'était vraiment rien. Ce qui l'intéressait, c'était de témoigner, de participer au monde. Et donc, il fallait trouver une manière de participer au monde.
Il y a des planches contact dans cet album,
le scrapbook.
Scrapbook. J'arriverai jamais à le prononcer. C'est un scrapbook, pourtant c'est facile. Où il y a quand même Marjolaine Petite.
Oui, Marjolaine a 2 ans déjà.
Oui. Elle a 2 ans. Ah, vous voulez dire petite
voilà, bébé, mais pas de photo de Marjolaine bébé, si vous voulez. Il n'en avait jamais fait.
On écoute. Mais là, je vais vous demander, chers auditeurs, parce qu'on va continuer à tisser son portrait. On va aller trop vite, évidemment. On va écouter l'une des rares archives sonores où est présente la voix de Gilles Caron. C'est un document qui est assez rare et qu'il vous faut, je le répète, tendre attentivement l'oreille. Gilles évoque la fatiguée, sa couverture du Vietnam.
Parlez-vous du Vietnam. Le truc le plus marquant que j'ai fait, ce qui m'a le plus frappé, c'était une colline sur laquelle il fallait grimper. Il n'y avait pas tellement de journalistes qui étaient candidats pour y aller. Je me suis embarqué sur un hélicoptère qui avait ramené les cadavres. Et le lendemain matin, ils sont montés à l'assaut. Ça durait une heure et demie à peu près. C'était épouvantable. C'était vraiment épouvantable.
Vous avez fait le Biafra aussi ?
3 fois. 3 fois dans l'année.
Vous êtes le premier à aller au Biafra, je crois.
C'est-à-dire que la première fois, plusieurs types y étaient allés déjà, dont un type de l'agence, Marco Herbach, qui est mort là-bas.
C'est vous qui l'avez remplacé ?
Oui. La première fois, on n'en parlait presque pas du Biafra. Et puis, j'ai fait la guerre, c'était tellement horrible que ça a frappé les gens. Ça a eu le match, a fait 6 pages là-dessus. Là, ça a commencé aussi. Après, j'ai surtout retourné au moment de la fin. C'était vraiment atroce pour moi. De gosses qui meurent, de femmes qui meurent, de vieillards qui meurent.
Marianne Caron, là, on vient d'entendre au micro de nos confrères d'RTL cet archive de 68 où il évoque, Gilles Caron, votre époux, deux conflits, le Biafra et le Vietnam, qui l'ont rendu déjà, presque immédiatement, allais-je dire, célèbre. Mais comment vous vivez le fait qu'il parte sur chaque front, la guerre des six jours, le Liban, le Vietnam, le Biafra, le Tchad, les barricades de 68, dans une moindre mesure, les barricades de 68, évidemment, quand je parle de front, mais tout de même, l'Irlande du Nord, que sais-je.
Parce que s'il voulait vraiment être là, il voulait participer, c'était ça qui l'intéressait, c'était témoigner. En fait, je pense qu'en Algérie, il est resté 22 mois, il n'a pas témoigné. Les seuls témoignages qu'il a fait, qu'on a maintenant, c'est son lettre à sa mère. Mais sans ça, il n'a pas fait une photo, il n'a rien fait. Il a subi l'Algérie. Et ça, pour lui, c'était... Il voulait participer, il ne voulait pas subir. Mmh. Et...
Enfin, on verra tout à l'heure, on en parlera, qu'il y a un moment où il dit un peu stop, hein, d'ailleurs, un peu réfractaire. Mais sur ces voyages-là, lui qui ne se considérait pas, c'est ce que vous dites parfois, comme un photographe de guerre, c'est pourtant là qu'il va. Et puis qu'il est photographe de guerre, c'est l'un de nos plus célèbres.
Oui, le premier reportage qu'il ait fait, là, c'était en Israël. En fait, il était parti faire un reportage sur Sylvie Vartan qui présentait sa mode.
Ah,
et il s'est rendu compte qu'il se passait des choses un peu étranges. Et il a déposé ses films et il est reparti aussitôt. Et puis là, quand vous regardez, enfin, quand on voit le Vietnam, pour moi, c'est toujours un peu dur à évoquer parce que pendant que Gilles était là-bas, Clémentine est née, quoi. Mm-hmm. Clémentine est née, il n'était pas là. Il était au Vietnam. Il est rentré après. Ça, c'est toujours un peu dur.
Quelles sont les images qu'on a tous un peu en tête de ces GI fatigués, de ces lignes de front qui, devant lui, s'exposent dans ce qu'il y a de plus inhumain, la fatigue aussi.
Oui, c'est pas le fait de la guerre qui intéresse ouais. Vraiment Gilles. Ce sont les gens dans la guerre, la manière de réagir des gens, la manière dont ils vivent, la manière la population vit, les soldats vivent. Ça, ce sont des hommes, ce ne sont pas des... juste des machines à tuer, c'est des gens qui sont fatigués, qui reçoivent des lettres de la famille, qui essayent d'avoir des rapports avec les autres quand même. C'est ça qui l'intéresse. La guerre, c'est...
Il se fait héliporter au plus près du front. Oui, oui. Le napalm est pas loin, les balles
sifflent bien sûr.
Côté.
Oui, bien sûr, il le fait aussi, mais il ne fait pas que ça.
Il le fait.
C'est pas la guerre pour la guerre, c'est la guerre pour les hommes qui sont dans la guerre.
Il y a une lettre qui est publiée, je vais y arriver, dans le scrapbook d'Hubert Henrotte qui lui dit, alors je crois que c'est après le Vietnam,
oui.
De faire, s'il te plaît Gilles, attention, ne prends pas de risques inconsidérés. Et puis il met en parallèle finalement ce petit jeu de la vente de photos qui n'est plus possible parce que les péloches arrivent pas à temps, mais aussi une énorme reconnaissance aussi. Déjà, et que ça suffirait peut-être. Vous vivez tout ça aussi au retour.
Ah oui, non, c'est très compliqué ça. Mais ouais. C'est, enfin voilà, le vigile c'était ça. Il voulait être là. C'est ça qui l'intéressait. Il faut pas oublier qu'il était un jeune homme quand il photographie en Israël quand il a démarré. C'était en 67. Il avait 28 ans.
Ouais.
Donc c'était un jeune homme. Et il y a 30 ans, il a disparu. Il avait plein de choses à découvrir encore. Il a On peut pas dire.
Quand on a.
Il était dans l'action, il était dans le faire.
Vous compreniez, vous, c'est souvent des questions qui se posent ici à ces micros, quand on reçoit justement des grands reporters ou des gens qui sont sur ces théâtres des opérations, l'intensité de ce qu'ils pouvaient vivre au contact justement, aussi quotidiennement, de la mort.
Oui, mais moi j'ai toujours pensé que la vie de ces personnes, ces reporters, était vraiment quelque chose de très difficile à avoir deux vies en fait.
Ouais.
Gilles était marié, avait deux enfants, c'est très difficile de photographier, d'aller au Biafra, de photographier tous ses enfants décharnés qui meurent sous ses yeux et tout ça. Et de rentrer à la maison et Marjolaine et Clémentine étaient là, elles étaient des petites filles qui l'attendaient, Rose, enfin Clémentine était un bébé, enfin, c'est vraiment très très compliqué à vivre. C'est toujours un décalage. En fait, il est là sans être, en se disant, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être là? à Paris avec des avec une famille, des enfants, une maison, tout marche, tout roule. Et puis je m'en vais, je me retrouve à la guerre avec des enfants qui meurent sous mes yeux. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est tout ça ?
Marjolaine, puisque vous êtes aux côtés de votre mère, là, c'était quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Donc vous avez même le droit de ne pas avoir envie de me répondre. Mais néanmoins, en l'entendant parler, là, justement, et vous n'ayant pas eu, du haut de vos 2 ans, quoi que ce soit au niveau de l'arsenal, de la parole, vous, avec le recul, vous le vivez comment ?
Ce que je me dis, c'est que c'était, je pense que la guerre, c'est quelque chose, c'est un peu choquant ce que je vais dire, mais il y a quelque chose de très photogénique dans la guerre, parce que c'est, il y a du mouvement, il y a de l'intensité, et c'était quelqu'un qui savait se déplacer dans les situations de danger. Donc il a profité non seulement de sa culture, c'est quelqu'un de cultivé qui s'intéressait à la peinture, et il a profité de cette, il avait cette culture. Et il avait aucun barrage physique, puisqu'il avait en plus vécu la guerre d'Algérie. Donc il savait ce que c'était qu'un conflit et comment analyser les situations sur place sans être dépassé par les angoisses ou les, parce qu'il va trop vite. Et il savait se placer exactement où il fallait parce que tout ça d'un seul coup était concentré dans ce personnage.
C'est un peu
et
mon père,
ça a créé une dynamite, quoi. C'était incroyable. Il faisait des photos d'une puissance incroyable parce qu'il savait se déplacer, il savait analyser. Voilà.
Bon, je ne vais pas le dire. Mon père, ce héros, d'une certaine manière. Sauf qu'il y a ce dernier voyage, le Cambodge, dont il ne revient pas à 31 ans, parce qu'il tombe à 30 ans. Oui, il n'avait pas encore 31 ans en 1970. Et là, il s'agit quoi ? De commencer déjà, Marianne, un travail de mémoire ? Non, pas encore.
Pas du tout, on l'attendait. La mémoire, ça ne vient pas tout de suite. Il faut un certain temps pour en arriver là. D'abord, il faut passer par l'attente. On ne sait pas, quelqu'un disparaît, on ne sait pas. Il disparaît, mais peut revenir.
D'ailleurs, il y a cette lettre qui clôture cet album de ses lettres d'Algérie, qui est une lettre qui n'a plus rien à voir avec son passage, évidemment, parmi le contingent, mais qui est une lettre de sa mère et qui essaye d'écrire le 16 novembre 70 à quelqu'un qui appartiendrait à un des maquis là-bas au Cambodge.
On ne sait pas.
Et voilà, on n'a pas identifié quelle est cette femme qui aurait pu interférer et intercéder, enfin, obtenir
peut-être
la libération.
C'est Mme Bin qui était responsable de l'armée vietnamienne, chef, je ne sais pas.
Ça, en tout cas, ce livre, on va l'ouvrir ensemble dans cette deuxième partie d'entretien. Écoutons juste, mais alors là, je vais peut-être avoir du mal à prononcer ce titre de Chen Nassim, Ashak Tekmen, Galbi, Wahabi, Alam.
حبيت سيني عمري ما نفهم بورك الريسوس فرقنا يا يا قضية ضروب لا كنتي تبغيني أنا بغيتك عندي غيتي وانتي لي لازم عمري تفهميني عند الطلبة ضلي تشري قضية ضروب لا كنتي تبغيني شخصك من قلبي أنا وربي عالم وعطيتك عمري باش نتهنى هابل سيني العمر ماني فهم الريسوت فرقنا يا شخصك من قلبي أنا وربي عالم وعطيتك عمري باش نتهنى بس لي ماني فاهم قلت الريسوت فرقنا يا
Vendredi, sans date.
1960.
Cher maman, aujourd'hui je suis rentré dans la grande famille des parachutistes. C'est un grand jour. Nous avons été très solennellement brevetés et j'arbore maintenant sur la poitrine un petit parachutiste ailé, numéro 171 000 et des poussières. Nous avons eu le droit à un petit baratin du style « Vous saurez vous montrer digne de vos aînés ». On nous a expliqué que les paras montaient à l'assaut, tenaient, se faisaient tuer, mais laissaient les autres, aux autres, la victoire. Beau programme. Nous avons quartier libre, mais on nous a conseillé de ne pas trop boire et de ne pas rouler des épaules en ville. J'ai déjà fait 7 sauts, et 5 ou 6 sans doute la semaine prochaine. L'avion est un énorme Nord 2501. On a l'impression de descendre d'un autobus. Pour tout ce qui concernait l'entraînement au sol et les sauts, on nous a noté. J'ai eu évidemment la meilleure note et j'ai été nommé major du Styx, c'est-à-dire chef de l'équipe de parachutistes sautant du même avion. Symboliquement, le sergent moniteur accroche le brevet au meilleur. Mais c'est au second qu'est revenu cet honneur, le premier ne lui ayant pas semblé assez militaire d'esprit. Pourtant, je me tiens bien. J'ai croisé un étudiant au Beaux-Arts, dans l'avion, casqué et harnaché. 5 minutes avant de sauter, alors que tout le monde est vert de peur, très froidement, il lisait l'Express, le bloc-notes. Ça valait une photo et une lettre au journal. La discipline chez eux n'est pas très dure, mais il est écœuré quand même. Il pense partir en Algérie comme moi en juillet. Il préfère ne pas y réfléchir et marquer d'un blanc tout ce laps de temps militaire. Je crois finalement que c'est la seule solution. Ce que j'aurais aimé avoir avec moi dans la section, un type comme ça. Dear Mam, écris et envoie-moi de l'argent. Je t'embrasse. Gilles.
Mercredi soir, 17 février. Mon darling oui, Gilles. Tu dois te dire, maman pense à toutes sortes de choses sans moi. Mais ce n'est pas vrai. Si j'arrange l'appartement, c'est pour toi après tout. Et parce que moi, je sais que 2 ans passent. Que 2 ans passent. Mais je ne peux pas te dire comme je m'inquiète pour toi. Je compte les heures. De Rhin semble plutôt optimiste. Enfin, je t'enverrai de nouveaux journaux, n'est-ce pas? Je te quitte. Je n'ai déjeuné que d'un cake. Je vais aller prendre un hot dog... peut-être, et acheter le monde. Je vais aller voir Michel un jour. Much love, my wee boy. Courage, roule-toi en boule, supporte. XXX, mommy.
Exercice, conflons-le, pas forcément tout à fait évident pour votre fille, Marjolaine, de lire cette lettre de la maman de Gilles Caron, votre époux. Très chère Marianne, au départ, mais qu'elle fait, merci de l'avoir fait. Il y a chez lui cette envie de partir que peut-être vous avez résumé avec ce titre « J'ai voulu voir ».
Oui, voulu voir ce qui se passait. intuitivement, enfin, s'il est parti, il a choisi d'être parachutiste, et bien, se douter quelque part, c'était assez ambigu quand même comme choix au moment de la guerre d'Algérie. J'ai bien se douté qu'il devait, quelque part, il devait avoir un doute sur son service militaire après quand même. Il a dû se poser des questions, ou alors il ne s'est pas posé exprès.
Sauf que on voit. Parce que ces lettres, vous les avez compilées. Je ne sais pas comment vous les avez retrouvées toutes. Peut-être certaines, d'ailleurs, ont disparu. Oui, d'autres étaient presque illisibles. Il a fallu les retranscrire. Donc, il y a eu tout un travail très long, hein, Marianne Caron. Oui. Mais on voit que les interrogations, ils se les posent au fur et à mesure que s'égrènent les jours, que les semaines deviennent interminables, qu'ils les voient, ces opérations militaires, les OP, comme on dit. Qui se pose des questions sur le sens.
Mais il se pose des questions tout le temps, parce qu'il a quand même, sauf avant de choisir son service, si on pouvait choisir, parce qu'il avait une culture politique très très forte quand même. Il était au courant toujours de ce qui se passait, il lisait les journaux tout le temps, il allait au cinéma tout le temps, il lisait tout le temps, donc il était amené à se poser des questions, il a tout fait pour se poser des questions. Donc il a subi donc.
Il l'a subi, mais il demande à un moment donné, il dit stop, et il va passer quelques longs mois au mitard, mais expliquez-nous.
Si, parce qu'il voulait, il pouvait pas faire ça, il pouvait pas vivre comme on lui demandait de vivre, et puis faire des opérations, tout ça c'était quelque chose d'absolument terrible, mais je pense que c'est ça qui l'a conduit à faire son métier après, à faire la photo après, pour témoigner justement. C'est parce qu'il est passé par là qu'il voulait. Je pense qu'il a voulu comprendre, mais c'est mon point de vue, je ne sais pas du tout si c'est le bon. Je pense qu'il a voulu comprendre comment on pouvait arriver à amener des gens à tuer.
Et voyons, en lisant cet extrait de cette lettre, une longue lettre du 7 juin 1961, dans quel état d'esprit, justement, il se retrouvait. Vous allez voir toute la différence. Je vous lis qu'un fragment. Dear Mom, ah là 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 là, tu te souviens, je croyais que la pire espèce était l'homme d'affaires et son petit bonheur de rat dans le fromage. Ben non, c'est le militaire, dont la vie ne repose que sur le malheur des autres. On a l'impression qu'ils sentent que réfléchir serait leur perte. Ils se murent dans l'action, sinon ils perdraient le courage même de se battre. Je parle des sous-offres surtout, mais même des officiers. Ce monde différent où l'hostilité est la doctrine de base. Ils s'emprisonnent dans leur uniforme pour ignorer l'autre monde où l'on juge simplement et contre lequel ils ne peuvent rien. C'est pas des propos qu'il a tout le temps tenus, Marianne Caron, mais il en arrivait à avoir ce regard-là sur l'institution, assez cruel,
oui,
méprisant.
Oui, bien sûr, parce qu'il n'était pas le seul dans ce cas-là, ils étaient tous comme ça. Enfin, il y a certains qui aimaient l'armée, qui se trouvaient bien dans ce monde-là, mais Gilles, c'était pas ça son monde. Donc ça a été vraiment très très dur.
Quand vous le voyez revenir en 62, donc je conseille à tout le monde, hein, surtout en cette année du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, de lire « J'ai voulu voir » chez Calman Levy. Quand vous le voyez revenir, quelle est la première discussion que vous avez, Marianne Caron?
C'est trop loin. C'est trop loin, je ne me souviens pas. Je ne sais plus.
Mais vous le sentez transformé?
Oh, il est très très soulagé d'avoir fini. Je me souviens qu'une fois, on était boulevard Saint-Germain, il y a eu un coup de feu. Et il m'a plaqué par terre entre deux voitures. Il était devenu tout blanc et il était absolument terrorisé. Mais après, il est rentré et il a commencé à se poser la question de ce qu'il allait faire. Donc c'était autre chose. Il était rentré dans une autre dimension. Il avait quitté ça, mais il n'a jamais quitté l'Algérie.
Même quand il commence la photo dans un univers que l'on pourrait considérer comme étant quelque peu ouaté, les photos qu'on dirait aujourd'hui people, dans les toutes premières années.
Il a commencé la photo à l'agence APIS et l'agence APIS faisait de la politique, des réunions politiques, du people, mais pas beaucoup de réunions politiques, c'est vrai. Mais le but de Gilles, c'était de faire de la politique. Il voulait apprendre.
Il y a des très grands portraits de politique.
Oui, mais son but, c'était de faire des photos politiques et d'action, disons.
Il y a des
physiquement.
Fous, d'accord. Et on les voit tous sur de Bardot à Gainsbourg,
oui, oui, oui.
Sous son
oui,
objectif.
Oui, parce qu'il voulait, enfin, il pensait qu'il fallait être bon. Un reporter d'agence devait être bon partout.
Ouais.
Quand il a commencé, il n'était pas photographe de guerre. Il est devenu photographe de guerre parce qu'il a accumulé les photos de guerre. Mais il n'était pas photographe de guerre, il faisait tout. Ça veut dire que quand il revenait du Biafra, il pouvait très bien aller photographier Mireille d'Arc ou Brigitte Bardot ou le conseiller des ministres. C'était pas linéaire, sa vie, du tout, ça changeait tout le temps. Ça veut dire que quand il partait le matin, je ne savais jamais s'il était là le soir ou pas, s'il rentrerait ou pas. Ben lui, il ne savait pas non plus.
Une bonne nouvelle pour terminer aussi cette émission, même si des bonnes nouvelles, on les a énoncées en début d'émission. Cette exposition dans le 4e arrondissement, ces deux livres qui sortent, j'ai voulu voir, et ce scrapbook, tiens, j'arrive aux éditions Liénard. Il y a aussi des photos que vous avez retrouvées au mois de mars dernier, alors qu'on imaginait qu'elles étaient aux mains des puissants Corbis ayant racheté Sigma.
Non, au début, je ne savais même pas qu'elles existaient. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait des photos de Gilles Caron, grâce à un ami qui nous a fait découvrir ça. Et voilà, on a récupéré à peu près 700 films de Gilles, ce qui est quand même à peu près le quart de sa production totale, ce qui est quand même pas mal. Ça, c'est encore un peu... Pas secret, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps... Il s'est passé tellement de choses pour Gilles cette année qu'on n'a pas eu le temps de travailler dessus et de les regarder vraiment, parce qu'il faut refaire des planches contacts. Les planches contacts sont vraiment assez abîmées. Mmh. Enfin, elles sont passées, elles sont jaunes ou marron plutôt. Donc on va les refaire et ça va être une nouvelle découverte et des nouvelles photos, une nouvelle histoire.
En tout cas, ceux qui veulent en savoir plus et prolonger la rencontre, il y a cette exposition à la Galerie Marla, c'est aux deux rues de Jarente. Et puis, Marjolaine, vous avez envie de me rajouter quelque chose rapidement?
Oui, mais il me semble, je ne suis pas sûre qu'on ait parlé de la Fondation.
C'est la fondation
qu'on a montée en 2007 et qu'on a montée, Marianne, on est plusieurs, enfin la famille, pour s'occuper de l'œuvre de Gilles et la mettre en lumière. Et on a sorti donc ces deux livres. Les événements, il y en a beaucoup. On travaille aussi sur un film. Et on a,
bon, donc ça veut dire qu'il faut qu'on vous réinvite.
Voilà, il faut nous réinviter parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et les projets, on a des projets qui se concrétisent et qui avancent comme ces deux livres. On en a des expositions et d'autres choses et ce film.
Et bien pour l'instant, en tout cas, un grand merci d'avoir été dans ce studio pour la première des émissions qu'on consacrera à Gilles Caron. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.